La parabole du Fils prodigue, Évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ces textes.
Là encore, nous nous efforcerons de chercher la pensée du Seigneur. Cette parabole, on l'a dit, est comme l'histoire de Dieu avec les hommes. Elle est le dernier mot sur Dieu et sur l'homme. Un homme avait deux fils. Il y a une autre parabole qui se trouve dans Matthieu 21, au verset 28-31, qui, elle aussi, commence par là. Un homme avait deux fils. Cet homme est un père, il a deux fils. Et Jésus reprend ainsi le commencement d'une autre parabole, et cela nous montre qu'il nous invite déjà à considérer, à regarder Dieu comme un père. Regarder Dieu comme un père. Avec les deux fils de ces deux paraboles, l'autre parabole, celle de Matthieu, ce sont les deux fils qui en s'entendent dire la même chose du père, va travailler dans ma vigne aujourd'hui, et l'un dit non, mais il y va, l'autre dit oui, mais n'y va pas. Et avec ces deux fils de ces deux paraboles, Jésus entend désigner l'humanité tout entière. L'humanité dans sa totalité. Parce que Dieu est un père, et il veut qu'on le regarde comme un père, comme un tendre père, qui pourtant ne se départira jamais, ne comptons pas là-dessus, ne se départira de sa justice. Elle est absolue, elle reste entière, il le faut, nous l'avons dit, et il faut le savoir, elle fonde le règne éternel, elle fonde le bonheur. Le règne de Dieu, le trône de Dieu, nous dit un psaume, est établi sur l'équité et la justice. C'est pour cela que Dieu, qui est un tendre père, et qui va se comporter comme un tendre père, c'est pour cela qu'il envoie quelqu'un, il envoie son fils, et le donne comme victime expiatoire. Dans notre parabole, aucun des deux fils, ni le cadet qui s'en va, ni l'aîné qui reste, n'a compris ce qu'était un père et ce qu'était leur père. Aucun des deux ne l'a compris. Aucun des deux ne le connaît. N'est-ce pas? C'est là quelque chose qu'il faut noter dans la parabole. Et la pensée du Seigneur Jésus, déjà, ressurgit là, n'est-ce pas? Aucun des deux ne connaît son père. Aucun. Et tous deux envisagent leur position de fils comme une position d'esclave. Et ils sont là, ils travaillent pour le père. Aucun d'eux n'a ressenti l'amour d'un père. Et c'est tragique. C'est une chose tragique. Tous deux ont une idée fausse de leur père et de leur position auprès de lui. Et tous deux ont manqué d'avoir en eux les sentiments d'une vraie relation qui eussent établi une vraie relation entre eux et leur père. Si leur père avait été connu comme un tendre père. Et nous voulons noter tout d'abord que le lien filial entre les deux fils et leur père apparaît comme ce qui détermine toute l'action qui se déroule dans la parabole. C'est ce lien filial est la raison de tout ce qui arrive. C'est parce qu'ils sont les deux fils d'un père que tout cela va se produire. S'ils étaient des étrangers, cela ne se produirait pas. Mais ils sont fils de ce père dont nous voyons ici l'œuvre. Alors, chers amis, n'est-ce pas, cela appelle la réflexion parce que n'oublions pas une chose, c'est que notre foi n'aura pas de ressort, n'aura pas de véritable consistance si elle n'est fondée, elle ne se fonde sur une pleine compréhension du message que toute la parole de Dieu nous apporte. Et ce message, il faut le méditer, le pénétrer. Heureux l'homme qui médite sur les choses, dit le livre des Proverbes. Heureux l'homme qui médite en profondeur, qui va se former. Si notre foi reste à l'extérieur de la parole, si elle ne prend que ce qui est facile, que ce qui est superficiel, notre foi manquera de consistance, mes amis. Et nous sommes là pour précisément remédier à cela. Alors ne dites pas, je suis là, moi, un chrétien, j'écoute cette parabole, parce qu'elle est bien connue, elle est intéressante, elle est bien la parole de Dieu, c'est vrai, mais elle concerne plutôt ce fils prodigue, c'est-à-dire l'homme du dehors, l'inconverti plutôt que moi. Pas du tout, elle te concerne, toi. La folle entreprise du fils cadet, car c'est la folie qui le guide, provoque une séparation avec son père. Il s'en va, il ramasse tout quand il a eu sa part véritable, il ramasse tout, fait argent de tout, il prend cet argent gonflé d'orgueil, d'envie, de convoitise, et il s'en va. Il laisse ce père, auprès duquel il se voyait comme un esclave. L'héritage qui devait lui revenir plus tard et dont il avait en quelque sorte la promesse, eh bien cette promesse d'héritage, puisqu'il était le fils, il avait une promesse de l'héritage. Cette promesse, il la transforme en un droit, en une exigence immédiate. Il veut tout de suite. Si l'on peut se référer aux coutumes qui avaient cours dans le peuple d'Israël, on peut dire que sa part, lui, fils cadet, est d'un tiers de l'héritage. Il demande sa part, n'est-ce pas la sienne. C'est un tiers, et le fils aîné avait les deux tiers, c'est-à-dire la double portion, ce qui s'appelle la double portion. Il revendique sa part. Et, ayant tout ramassé, il s'en va, se rendant indépendant vis-à-vis de son père. Et alors ici, mes amis, si vous voulez bien réfléchir, vous avez l'image du tragique événement de la chute que nous raconte le chapitre 3 de la Genèse, la chute de l'homme. Nous avons là la chute de l'homme. Il n'est pas douteux qu'elle l'ait passée là, dans la pensée du Seigneur, et qu'elle s'est inscrite dans les éléments de cette parabole. Adam, le premier homme, revendique lui aussi. Il revendique son autonomie. Il veut être comme un dieu. Il a entendu cette parole, vous serez comme des dieux, toi et ta femme, vous serez tous deux comme des dieux. Il veut être comme un dieu, libre, pense-t-il. Il veut s'emparer tout de suite de l'héritage. L'héritage, c'est la terre, et c'est pourquoi nous voyons intervenir la terre assez souvent dans les Écritures et même dans les Béatitudes. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Il y a un héritage a fait. Et cet héritage, Daniel, le prophète Daniel en a parlé, cet héritage, l'homme l'aura. Il est co-héritier avec le Christ, et cet héritage, héritage promis, comprend, comme pour autrefois, l'héritage des descendants d'Abraham comprenait les biens matériels comme image peut-être, comme figure des biens spirituels, mais tout était ensemble. Alors, Adam veut s'emparer de la terre, l'exploiter selon sa propre volonté, et non plus comme une possession de Dieu son Père, dont il assure, dont il est chargé d'assurer la mise en valeur dans le service de Dieu. Et il peut faire de la terre bien des choses, mais dans le service de Dieu. Assujettissez-vous toutes choses. Dieu le leur donne et leur avait donné le pouvoir de s'assujettir toutes choses. J'ai dit que, en parlant d'Adam, que Dieu était son Père. C'est bien, chers amis, ce que nous dit l'évangile, ce même évangile de Luc, dans la généalogie qui figure au chapitre 3, on part de Jésus qui avait 30 ans, qui était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. Il y a toute l'énumération. Quand on arrive au verset 38, à la fin de cette généalogie, il y a fils d'Énos, qui lui-même était fils de Seth, qui lui-même était fils d'Adam, qui lui-même était fils de Dieu. Adam est un fils de Dieu. L'homme est un fils. Et c'est bien ce que Jésus nous confirme dans cette parabole. L'homme, ainsi, en Éden, se sépare, se révolte contre la souveraineté de son Père. Il veut marcher seul, il veut jouir à sa guise de la création, la gérer avec toute la puissance que Dieu lui prêtait, et ce n'est pas douteux qu'il l'a disposé de cette puissance, ce n'est pas le moment de vous en parler, mais j'en ai des convictions appuyées sur l'Écriture. Mais, n'est-ce pas, il en aurait joui au service de Dieu, dans la fidélité à Dieu. Il veut en jouir de façon autonome, lui tout seul, selon sa volonté. Il va être comme un Dieu, il va mettre sa volonté en premier. Aujourd'hui, dans notre société, ce qui domine, un philosophe l'a dit il n'y a pas tellement longtemps, et pourtant c'est un athée, eh bien, ce qui domine dans notre société, c'est cela, l'autonomie de l'homme. Dieu se veut seul, absolument seul et maître. Un Dieu. Il est un Dieu. Adam croit, alors, après cette séparation d'avec son Père, d'avec Dieu, Adam croit qu'ainsi, il s'est rendu libre. Il s'est rendu libre. Libre comme le fils cadet de la parabole. Dans sa communion première avec Dieu, son Père, n'oublions pas que l'Écriture nous dit qu'Adam était la figure de celui qui devait venir, et c'est déjà surtout en cela qu'il est la figure, n'est-ce pas? Il est l'image de celui qui est alors le Fils unique, n'est-ce pas? Il y a une différence, évidemment, entre Adam, dans sa filialité avec Dieu, et Jésus, dans sa filialité avec le Père, puisque Jésus, n'est-ce pas, est la parole. Lui, la parole fait chair. Mais Adam est la figure de celui qui devait venir et qui s'appelle le Fils de Dieu. Eh bien, dans sa communion première, Adam possédait les perfections divines. Il les possédait, il était à l'image et à la ressemblance de Dieu, que voulez-vous ? Il possédait les perfections divines, c'est pas la peine de dire, n'est-ce pas, comme tous les ignares, laissez-moi les appeler comme cela, parce que, véritablement, leur production est détestable. Dire qu'il était dans un état d'innocence, comme un enfant, n'est-ce pas. Non, il revêtait les perfections divines, il les revêtait, il était à l'image et à la ressemblance. Est-ce qu'on peste ce que ça veut dire, ça? Il recevait la plénitude de la vie en Éden. Mais écoutant le serpent, il regarde soudain son lien originel avec Dieu comme une chaîne, comme une entrave, comme un empêchement à son épanouissement tel qu'il l'envisage après avoir écouté la parole du serpent, et à sa liberté. Il conçoit une liberté. La parole du serpent a semé ça dans son cœur, il conçoit lui une liberté. Il veut briser la chaîne qui l'unit à son père, il veut briser cette filialité, il veut se séparer. Vous voyez, n'est-ce pas, comme notre parabole nous traduit bien déjà, n'est-ce pas, ce drame qui s'est déroulé en Éden. Aussitôt séparé de Dieu, Adam va s'apercevoir qu'il s'est livré à des puissances qu'il ne soupçonnait pas, les puissances du mal, les puissances de la mort, aux puissances de celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire à Satan. Il a fait une perte irréparable, une perte irréparable, et c'est ce qui fait que, notamment, que l'homme ne peut pas assurer lui-même son salut, l'homme ne peut parvenir lui-même, une perte irréparable. Il faut Dieu pour la réparer. Une perte irréparable, celle des ressources de la vie qui lui venait de Dieu. Il s'est coupé de Dieu, il s'est coupé de la source, il s'est coupé de la vie. Il est mort. Il est mort. Et où va-t-il aboutir cet Adam, cet homme d'Éden qui s'éloigne de son Dieu? Il va aboutir à la situation que représente dans notre parabole celle du fils cadet obligé de garder les pourceaux d'un autre, sans même pouvoir partager la nourriture de ses animaux, car il est dans un pays où la famine sévit. En pleine famine, il fait un travail harassant, dur, pénible, un travail, le travail le plus bas qui soit, et il ne peut même pas manger les carreaux qu'on donne aux animaux. Ils sont pour les animaux, ils ne sont pas pour lui. Voilà la situation de l'homme aujourd'hui, de la société aujourd'hui. Voilà la situation, chers amis, qui découle de cette séparation avec Dieu. Quant au Père, le Père, parlons maintenant un peu du Père. Le Père laisse son fils aller sans lui ôter sa part d'héritage, qu'il va pourtant dilapider, et il n'est pas douteux que le Père le sait. Le Père laisse à ce fils, lui laisse emprunter la voie qu'il choisit lui-même et qu'il préfère à cette situation de bonheur et de tranquillité qu'il goûtait dans la maison du père. Le fils a choisi autre chose. Une folie est entrée en lui, il a choisi autre chose. Le père le laisse. Autrement dit, le père le laisse suivre son intention, sa folie, sa volonté propre. Le père laisse ce fils suivre sa volonté propre. Mais le père sait bien que l'aventure sera dramatique. Et il le voit comme perdu, comme mort. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est retrouvé. Il le voit comme mort, il le voit comme perdu, mais son cœur de père ne l'abandonne pas. Mais cependant, il est perdu, il est mort. Et l'on comprend, n'est-ce pas, toute la valeur de ce terme lorsque Jésus vient sur la terre et dit « J'ai été envoyé à ceux qui sont perdus, aux perdus, ils sont perdus. » Séparé de Dieu, l'homme, en effet, est mort et perdu. Telle est sa situation. Il n'y a rien à corriger à cela. Ah, c'est la situation de l'homme. Jésus lui-même la caractérise lorsqu'il dit à un certain disciple qui voulait le suivre et qui voulait aller avant à l'enterrement de son père, « Laisse les morts enterrer !» leur mort. N'est-ce pas? Donc, comme l'apôtre Paul, vous étiez mort par vos offenses. Les offenses, votre état de péché, vous séparait de la source de la vie, vous étiez mort. Donc, la vie que nous avons en venant dans ce monde est une vie de l'âme, une vie matérielle avec un peu de vie de l'âme, mais n'est pas une vie de l'esprit, une vie qui puisse se conserver. C'est une vie qui est pétrie de tout ce qui a fait la chute, de tout l'orgueil. Son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. C'est une vie qui ne peut que se perdre. Dieu va laisser l'homme moissonner ce qu'il a semé. Or, l'homme sème quoi donc? Sa propre volonté. Il sème sa propre volonté qui est distincte de celle de Dieu, qui est même opposée à celle de Dieu. Et l'homme ne récoltera que la ruine, la souffrance et la mort. Et non pas comme il le croyait, le bonheur et la vie sans fin. Et nous avons des textes qui nous disent cela, qui nous montrent que Dieu laisse l'homme à sa folie. Il le laisse. Et nous avons des textes. Prenons par exemple le psaume 81, verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est dit à Israël, mais n'est-ce pas, à travers Israël, cela parvient à tous les hommes. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Allez, faites. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil, ou leur propre volonté. Ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours, je le nourrirais du meilleur froment, et je le rassasirais du miel du rocher. Librement, le Père est disposé toujours à recevoir le Fils. Et dans le livre des Proverbes aussi, nous avons au chapitre 1er et au verset 29, ceci. Parce qu'ils ont haï la science, la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasiront de leurs propres conseils. C'est la résistance des... Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous voyez, n'est-ce pas, comme Dieu laisse à l'homme la liberté tout en lui prodiguant encore ses appels au retour. Dans le temps de sa patience, Dieu n'empêche donc personne de suivre sa propre volonté. L'homme est libre. Et c'est dans cette liberté, laissée à l'homme, elle est essentielle, cette liberté. Dans cette liberté laissée à l'homme, c'est là que Dieu va pouvoir transformer l'homme. Transformer l'homme. Comme l'épreuve du fils cadet va transformer l'état de son cœur. Eh bien, nous avons, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, quelque chose qui s'apparente à ce que je viens de dire. Ici, Dieu qui donne sa parole, mais laisse liberté. Chapitre 2, verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Voyez-vous, n'est-ce pas, dans la liberté, Dieu va par sa parole, pousser l'homme à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. La patience de Dieu, c'est cela qui va sauver. Comment cette transformation va-t-elle s'opérer dans cet homme qui a écouté sa folie, qui veut être comme Dieu, autonome, et qui s'en va, qui se sépare du Père? Eh bien, cette transformation va s'opérer par un retour au Père. Un retour. Car le Fils se souviendra de son Père. Et il y aura un chemin de retour vers le Père. Il y aura un chemin. Le Fils a suivi un chemin qui l'a séparé, qui l'a éloigné du Père. Il est allé dans un pays étranger. Il s'est réjoui, il a dissipé son bien, mais il a souffert. Et il y a, après cette souffrance, un chemin de retour vers le Père. Le Fils a donc conservé le souvenir de l'amour du Père, ou plutôt disons que cet amour s'est éveillé dans la souffrance en son cœur. Il n'y pensait pas, il ne l'avait pas senti cet amour, comme je l'ai dit. Mais voici que dans la souffrance, dans le malheur, cet amour du Père s'éveille en lui. Son Père ne le repoussera pas. Il est assuré que son Père ne va pas le repousser. Et il ira vers son Père avec de vraies paroles de repentance. Et le Fils de retour ne demandera plus qu'une petite place. Il est indigne, dira-t-il à son Père, d'être son fils. Il est indigne d'être son fils. Il demandera la place d'un mercenaire dans la maison du Père. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Et que fait le Père? Le Père, lui, reste fidèle à sa paternité. Il ne peut pas se renier, car le Père ici, bien sûr, figure Dieu, parle de Dieu. Il ne peut pas se renier, il reste fidèle à sa paternité. Dieu est fidèle, des textes nous le disent, je ne vais pas y aller absolument maintenant, mais 2 Timothée, par exemple, chapitre 2, verset 13, nous le disent. Et puis, il y a aussi des textes, ne tournez pas les pages si vous ne voulez pas, mais écoutez la lecture dans Osée, chapitre 11 et verset 8. « Que ferai-je de toi, Éphraïm, dois-je te livrer, Israël ?» Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Et puis, dans ce même prophète, au chapitre 14, au verset 5, « Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban, ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban, ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant, c'est de moi que tu recevras ton fruit. » Vous voyez, n'est-ce pas, comment est Dieu? Il faut connaître notre Dieu. Nous devons le connaître à travers sa parole. Le fils prodigue avait donc perdu tout droit à la qualité de fils. Cependant, sa filialité n'est pas rejetée. Le père ne rejette pas le lien de filialité avec ce fils. et cette filialité n'est pas oubliée du Père. Elle retrouve tout son sens, elle retrouve toute sa réalité lorsque le Fils est de retour dans la confession et dans la repentance. Et c'est alors l'accueil chaleureux que le Père lui réserve, et c'est la réjouissance générale de toute la maison qu'ordonne le Père, parce que ce fils qui était perdu est retrouvé. Mais parlons un peu du fils aîné. Il est à remarquer ceci, c'est que les deux fils de la parabole ne se ressemblent pas. Le père a deux fils qui ne sont pas pareils, qui sont dissemblables. On pourrait même presque dire qu'ils sont opposés l'un à l'autre. En cela, Jésus nous a bien aussi présenté le tableau que nous offre toute l'histoire, rapporté par la Bible. Car dès après la chute, nous avons deux fils ainsi, Caïn et Abel, absolument dissemblables l'un de l'autre. Ils ne se ressemblent pas. L'un est cultivateur, l'autre berger, l'un est tout à fait établi sur lui-même, sur sa réussite, sur son habileté, sa force. L'autre est un homme qui interroge, qui cherche la foi et qui exerce, qui suit la foi, il plaît à Dieu. Et nous avons aussi deux fils, Ismaël et Isaac, et Ismaël qui regardait Isaac et le persécutait, qui persécutait Isaac, deux fils différents, dissemblables. Nous avons Ésaü et Jacob. Rien de plus dissemblable que ces deux fils, pourtant des jumeaux. Rien de plus dissemblable. Ésaü, lui, le fils au cœur profane. Pourtant, il est bien dans la règle, lui. Mais vraiment, son cœur est profane, n'a que des pensées d'abandon, des pensées qui lui sont personnelles. Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü, c'est-à-dire n'a pas aimé du tout le comportement profane d'Ésaü. Et Ésaü et Jacob, nous avons Éphraïm et Manassé, que l'histoire nous montre eux aussi très différents. Et puis, nous avons après Salomon, les deux royaumes, le royaume de Juda, le royaume du sud, et le royaume du nord, le royaume de Samarie, le royaume d'Israël, dissemblable. Eh bien, c'est curieux cela, deux fils qui ne se ressemblent pas du tout. Et ça, cela, nous le voyons, se répète, s'inscrit en effet dans l'histoire. Et pourquoi? Eh bien, c'est la chute qui a engendré cela, c'est la chute. Comme c'est le comportement de Salomon qui a engendré le schisme. L'aîné a droit, lui, à la plus grosse part d'héritage, nous avons dit la double portion, les deux tiers. N'aurait-il pas dû, puisqu'il s'est fait régulier, fidèle, dans le service du père, n'aurait-il pas dû lui garder les mêmes sentiments que son père pour son frère malheureux? Pourquoi n'a-t-il pas les mêmes sentiments? Il a des sentiments tout à fait différents de ceux du père. D'où cela vient-il? Ne devrait-il pas, puisqu'il a été régulier, fidèle, il est resté là, il a servi le père ponctuellement. Mais voilà soudain que son cœur est tout à fait différent, se découvre différent du cœur de son père. Il est indigné. Il soumet l'attitude de son père au jugement de son cœur, dépourvu de toute miséricorde. Lui, il juge son père. Cette conduite, ça ne lui convient pas, c'est pas ça. Il aurait fallu le rejeter à la porte, ce frère indigne. Et cela, chers amis, bien sûr, dans la parabole, c'était d'abord l'image des pharisiens. Les pharisiens étaient en somme considérés comme ceux, comme ce fils aîné, comme ceux qui avaient continué de servir la maison de Dieu. Ils étaient dans la loi de Moïse, ils étaient les continuateurs. Oui, mais en ne voulant pas de Jésus, mais surtout de la forme que prenait la mission de Jésus, ce cours qu'empruntait l'œuvre messianique d'aller vers les publicains, les gens de mauvaise vie, les gens à rejeter comme le fils prodigue. Ah non, tout de même pas ça dans la maison de Dieu. Ils étaient comme le fils aîné. Mes chers amis, les pharisiens, nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas, ils ne sont plus là maintenant. Et il y a des chrétiens aujourd'hui. Et dans les chrétiens, on peut trouver peut-être cela. Chers amis, c'est une chose qui n'est pas admissible. Il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et non pas les sentiments de ce fils aîné. Comme le faisaient les pharisiens, ils murmuraient plein de ressentiment contre son père ou contre ce que son père avait ordonné. En fait, ce fils aîné servait le père par devoir et non pas selon un réel amour. Son cœur n'y était pas. Et alors, il servait son père tout en demeurant dans la maison du père. De par son cœur, il était tout autant perdu que le fils cadet, que le fils prodigue. Il était perdu lui aussi. Et c'est ce que Jésus, à travers cette parabole, va dire aux pharisiens, vous n'êtes pas, vous, autrement que ces publicains-là, que vous jugez, que vous voyez indignes. Vous les voyez, n'est-ce pas, se livrer peut-être à la débauche. Ils n'ont aucune loi. Bon, et alors vous considérez au contraire, n'est-ce pas, comme des gens agréés de Dieu. Eh bien non, vous êtes vous aussi perdus à cause des sentiments de votre cœur, à cause de la dureté de votre cœur. Vous êtes imperméable à l'amour du Père. Le service, l'obéissance, ce fils aîné les avait comme un fardeau. Il supportait cela comme un fardeau. Alors, va-t-il comprendre de quel bonheur il est comblé d'être resté, lui, dans la maison du Père, d'être toujours avec le Père? Cela, la parabole ne le dit pas, mais les pharisiens, là, ont reçu leur leçon. Et nous pourrions nous questionner en terminant sur ceci, mais dans cette parabole qui nous montre bien que l'homme est perdu, que l'homme est mort en dehors de sa relation de fils, sa relation d'amour avec Dieu. Mais où est Jésus? Où est-il? Où est le Seigneur? Il ne s'est pas fait de place dans cette parabole, semble-t-il. Il n'est pas là. Il n'y a pas de personnage qui puisse le représenter ici. Alors, c'est Jésus qui prononce cela. Eh bien, si, il y est. Ah, il y est. Jésus y est. Seulement, il y est d'une manière cachée. Il y est d'une manière cachée. Et c'était bien ce qui convenait, en effet, à ses interlocuteurs, les chefs des Juifs. Parce qu'il y est à travers l'œuvre messianique. L'œuvre messianique qui, on peut facilement le déduire de cette parabole, n'est-ce pas, n'est pas la glorification d'un peuple, n'est pas la mise au règne d'un peuple qui se croit juste, mais l'œuvre messianique est dans la grâce faite à l'Israël pécheur, dans la grâce qui lui est faite. C'est là qu'est l'œuvre messianique. Et j'aurai recours encore au livre d'Osée pour vous lire ceci, 2:25. Je planterai pour moi l'eau Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. À celui qui n'était pas mon peuple, je lui dirai, tu es mon peuple. C'est là, dans l'esprit de miséricorde que se trouve le rôle de Jésus et que se trouve par conséquent le médiateur lui-même. Le médiateur est dans son œuvre ici. Jésus et son œuvre, c'est quoi? Mais c'est toute l'attitude du Père. Mais c'est la sortie du Père allant à la rencontre de son Fils. Et l'accueillant en écoutant avec joie son repentir et sa confession. C'est cette démarche que le Père fait à l'extérieur de sa maison dès qu'il aperçoit au loin son Fils qui était perdu et qui revient. Alors il va vers lui, au devant de lui, Jésus-Christ, n'est-ce pas Dieu, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Jésus n'a pas besoin d'être figuré par un personnage. Il est là. Dans cette attitude du Père, dans cette avancée du Père, Dieu le Père, en effet, invite à sa table ses créatures, ses fils perdus qui sont morts, les fils déchus, ceux-là par celui qu'il leur envoie et qui est Dieu lui-même. Alors, c'est la réconciliation. Et la voix de l'homme perdu, c'est bien la voix que suit le chemin, que suit le fils prodigue revenant vers son père. Il a trouvé une voie d'accueil, il revient, Jésus est dans ce chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au père que par moi, je suis moi le chemin. Et Jésus est là, dans le chemin de retour. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un chemin de retour, c'est Jésus ce chemin. Le chemin de retour, Jésus, c'est cela. Il est dans la parabole. Que le Seigneur soit béni. Amen.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton Alléluia.